Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 7 septembre 2023. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. Au Gabon, remise en liberté du président déchu, Ali Bongo Ondimba. Au Nigeria, la justice rejette toutes les requêtes contestant les résultats de la présidentielle. À Madagascar, le président Ange Rajoel est candidat à sa réélection. Au Sénégal, nouvelle interception d'une pirogue de migrants. Au Mali, ultime hommage à Salif Keita, ancienne gloire du foot africain. Au Rwanda, un tueur en série présumé enterrer ses victimes dans sa cuisine. Nouvelle aide américaine de 2 milliards de dollars à l'Ukraine, annoncée lors d'une visite surprise mercredi à Kiev du secrétaire d'État Anthony Blinken. Ici aux États-Unis, un procureur va inculper d'ici fin septembre Hunter Biden, le fils du président américain, pour détention d'armes. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Gabon, Ali Bongo Ondimba est désormais libre de ses mouvements. Âgé de 64 ans et au pouvoir depuis 14 ans, l'ex-président a été déposé lors d'un putsch mené sans effusion de sang. C'était moins d'une heure après que l'instance électorale a proclamé sa réélection à la présidence dans un scrutin qualifié de frauduleux par les putschistes. La remise en liberté de M. Bongo est intervenue après une médiation de près de 48 heures menée auprès des nouveaux maîtres de Libreville par le centrafricain Faustin Archange Touadéra, émissaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Selon des sources proches de la présidence centrafricaine, l'objectif de Touadéra était avant tout d'obtenir la remise en liberté d'Ali Bongo Ondimba. Un résident surveillé avec son téléphone confisqué après sa vidéo d'appel à l'aide publiée au lendemain du coup de force des militaires le 30 août dernier, le désormais ancien président du Gabon est donc un homme libre. Libre de ses mouvements, il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger pour ses soins médicaux. C'est ce qu'indique le 6e communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions signé du président du CTRI, le général de brigade Brice Oligengema. Un communiqué qui a été largement diffusé par les chaînes de télévision publique du Gabon. Rappelons que le sort réservé au président déchu, le délai de la transition, l'organisation des prochaines élections, la place du Gabon dans l'organisation sous-régionale étaient autant de questions abordées par Oligengema et Touadéra. Le président de la transition a assuré à son hôte de l'engagement pris par les militaires de restituer le pouvoir aux civils au terme d'une élection présidentielle libre et transparente qui garantit la paix. Il n'a pas manqué, en outre, d'expliquer au président centrafricain les raisons de ce coup d'État. Il fallait éviter un autre bain de sang, a martelé le nouvel homme fort du Gabon. Difficile de dire pour l'heure quelle destination exacte prendra M. Ali Bongo Ondimba après cette décision prise en sa faveur par les nouveaux maîtres du Gabon. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Au Nigeria, une cour d'appel a rejeté hier la requête de l'un des deux principaux partis d'opposition contestant les résultats de la présidentielle de février. Bola Ahmed Tinubu a déjà prêté serment au mois de mai, dit l'Idéco.
Les cinq juges de la cour d'appel d'Abuja délibèrent depuis des mois sur les poursuites engagées par les principaux partis d'opposition, le Parti démocrate du peuple et le Parti travailliste. Le Parti travailliste a été débouté de sa requête qui portait sur des accusations de fraude et sur des allégations d'inéligibilité de Bola Tinubu. Les requérants ont encore la possibilité de faire appel auprès de la Cour suprême. À l'issue du scrutin du 25 février, le candidat du Congrès des progressistes et ancien gouverneur de Lagos, Bola Ahmed Tinubu, a été déclaré vainqueur devant l'ancien vice-président Atiku Abubakar et le candidat travailliste Peter Obi. Le 29 mai, au moment de son investiture, le président a supprimé les subventions sur le carburant, ce qui a quadruplé le prix de l'essence. Bola Tinubu doit se rendre au sommet du G20 à New Delhi le week-end prochain, Une démarche qui s'inscrit dans l'éventualité d'une candidature du Nigeria pour devenir membre du G20, a annoncé dimanche la présidence nigériane.
Le président malgache Ange Rajoel a annoncé hier qu'il se portait candidat à sa propre réélection. La grande île de l'océan Indien tient au scrutin présidentiel le 9 novembre prochain, Jean-Roger Bion.
Ange Rajoel a fait sa déclaration lors d'une cérémonie en grande pompe dans le stade Baréa, le plus important du pays. « Vous êtes prêts? Je suis déterminé à lancer le chef de l'État de 49 ans au milieu de plusieurs milliers de personnes vêtues en couleur orange, couleur de son parti. » Monsieur Rajoel a mis en avant dans son discours la construction d'infrastructures au cours des 5 dernières années. Il a pris le pouvoir en 2009 à la faveur d'un coup d'État qui a chassé l'ex-président Marc Ravalomanane, interdit de candidature par la communauté internationale en 2013. Ange Rajoel a finalement été élu en 2018. Monsieur Rajoel a été ces derniers mois au centre d'une polémique sur sa double nationalité française et malgache. Naturalisé français en catimini en 2014, le président est censé perdre sa nationalité malgache au regard du code de la nationalité de son pays. Cette version des faits est vigoureusement contestée par le parti présidentiel. Son rival Marc Ravalomanane, âgé de 73 ans, a déjà annoncé en juillet sa candidature à la prochaine présidentielle.
Au Rwanda, un tueur en série présumé a été arrêté après la découverte de plus de 10 cadavres dans une fosse creusée dans la cuisine de son domicile de Kigali. C'est ce qu'ont rapporté hier la police et des médias rwandais, Lionel Gahima.
La police a indiqué que le suspect, âgé de 34 ans, rencontrait ses victimes, des hommes et des femmes, dans des bars et les attirait dans son logement de location situé en périphérie de la capitale rwandaise. Il opérait en attirant ses victimes, la plupart des prostituées, à son domicile où il leur volait leurs téléphones et autres effets personnels avant de les étrangler et de les enterrer dans une fosse creusée dans sa cuisine, a déclaré le porte-parole du RIB, le bureau d'enquête rwandais Thierry Mourangira, cité par des médias sociaux. Selon lui, le nombre final de victimes sera déterminé par les investigations médico-légales. Le suspect a confessé avoir appris à tuer en regardant des vidéos des tueurs en série connus. Il a dissous certaines de ses victimes dans l'acide et a ajouté une source anonyme au sein du RIB. Il étudiait ses victimes avant de les attirer chez lui. Et il privilégiait celles qui étaient le plus susceptibles de ne pas avoir de famille, proches ou d'amis, qui s'inquiéteraient de leur disparition, a précisé la même source.
Le Mali a rendu hier à Bamako un dernier hommage à Salif Keïta, gloire du football africain, décédé à l'âge de 76 ans samedi dernier dans la capitale malienne. Le point Yacouba Ouédraogo.
Des centaines de personnes, dont le premier ministre Choguel Kokala Maïga, se sont pressés sur la place du cinquantenaire pour dire adieu au premier ballon d'or africain de 1970. Il a tout donné au Mali, joueur, entraîneur, ministre, fédération malienne de football. Son centre de formation a donné des génies au Mali, a affirmé Idrissa Maïga, ami et ancien coéquipier de Salif Keïta à l'AS Real Bamako et en équipe nationale. Des délégations sont venues du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée voisine, mais aussi de la France. Salif Keïta est un monument à saluer l'ancien joueur guinéen Chérif Souleymane. Surnommé Domingo, par ses copains, Salif Keïta a été l'un des plus grands attaquants de sa génération. Né à Bamako en 1946, il a conduit le stade malien en 1965 et l'AS Real Bamako en 1966 jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Champions et plus tard la sélection du Mali en finale de la CAN en 1972. Il a joué à Saint-Étienne en France, à Marseille, à Valence, en Espagne, au Sporting Portugal, avant de terminer sa carrière aux États-Unis, à Boston. Après sa carrière sportive, il a investi dans l'hôtellerie avant de fonder le premier centre de formation de football de son pays. Il a été ministre délégué au début des années 1990 et a dirigé la Fédération nationale dans les années 2000.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'est de l'Ukraine, au moins 17 civils ont été tués hier dans une frappe sur un marché, frappe attribuée à la Russie. C'est arrivé pendant une visite surprise à Kiev du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Mohamed Humfa.
Le bombardement à Kotiantynivka, une ville de la région de Donetsk, a eu lieu quelques heures après l'arrivée d'Anthony Blinken. Des images de vidéosurveillance montrent une ruelle commerçante de cette ville puis une très forte explosion. Le gouvernement ukrainien a fait état de 17 personnes tuées et 32 blessées. Les terroristes russes ont délibérément visé le marché alors qu'aucune cible militaire ne se trouvait à proximité, a accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le secrétaire d'État américain, en visite surprise à Kiev, a déclaré que les États-Unis se sont engagés à donner à l'Ukraine les moyens d'écrire elle-même son avenir. Il a annoncé une nouvelle aide totalisant plus $1 milliard. Le Kremlin a de son côté reproché aux États-Unis de maintenir l'Ukraine en état de guerre.
Le procureur spécial David Weiss, qui enquête sur Biden, Hunter, le fils du président américain Joe Biden, a annoncé son intention de l'inculper avant le 29 septembre pour détention illégale d'armes à feu, selon des documents judiciaires publiés mercredi. La Minute Éco, Mohamedou Houmfa.
Les recettes d'exportation du Burkina Faso liées au secteur minier ont augmenté de 57 millions de dollars, a déclaré mardi le secrétaire général du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Jean-Baptiste Cabouret, lors d'une conférence de presse. Il a cependant déploré une perturbation des activités d'exploitation et de recherche géologique et minière, due notamment à la crise sécuritaire que traverse le pays. Les avoirs en devises de la Tunisie à la date du 5 septembre ont progressé d'environ 10% pour dépasser les 8,48 milliards de dollars, a révélé la Banque centrale de la Tunisie. D'après la BCT, cela équivaut à 117 jours d'importation. À la même date l'année dernière, les réserves en devises étaient de l'ordre de 114 jours d'importation. La banque a indiqué par la même occasion que les recettes touristiques avaient connu une hausse de 47% sur les 8 premiers mois de cette année. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, en visite au Caire, ont discuté mercredi des moyens de renforcer le partenariat stratégique bilatéral, a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué. Les deux parties ont également discuté de la coopération dans les domaines de l'éducation, de l'énergie, des transports et de la technologie.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Poursuite des matchs de la dernière journée des éliminatoires de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire.
8 matchs à grand enjeu dans le groupe E entre le Ghana et la République centrafricaine. Les Black Stars, leaders de leur poule, ont besoin d'un nul pour se qualifier. S'ils perdent la rencontre, la République centrafricaine se qualifierait pour la première CAN de son histoire. Dans l'autre rencontre de cette poule E, devant Madagascar, l'Angola a besoin d'une victoire pour s'assurer d'être à Abidjan. Dans le groupe F, le Niger, déjà éliminé, fait face à l'Ouganda, troisième avec un mince espoir de qualification en cas de victoire. Toujours dans cette poule F, l'Algérie, qualifiée, joue contre la Tanzanie. Qualifiée aussi, la Tunisie affronte le Botswana.
Le Cameroun n'a pas encore son ticket pour Abidjan, mais il a plus de chances avec le retour en sélection d'André Onana.
Le Lion indomptable a pris part à l'entraînement avec ses coéquipiers en vue de la dernière journée des éliminatoires de la prochaine CAN, prévue en janvier et février prochain. Le retour du sociétaire de Manchester United en sélection 10 mois après l'annonce de sa retraite internationale était très attendu du public à Yaoundé. Notre correspondant Emmanuel Gelontap.
André Onana a été la principale attraction du public lors de la séance d'entraînement de ce mardi. Francis Abolo, supporter des Lions Indomptables.
À ce stade de la compétition, il faut un gardien comme lui, qui a de l'expérience.
Florence Nana, une autre fan, a quant à elle revu un André Onana avec le même style de jeu.
Il reste le même joueur, on va devoir se faire avec son style de jeu.
Un peu réservé durant les 2 heures d'entraînement, André Onana a cependant gratifié le public de quelques transversales et belle relance balle au pied. Gaël Ondoa, milieu du terrain des Lions Indomptables.
Si on peut encore avoir sa présence dans l'équipe, je pense que ce n'est qu'un plus pour nous, ses coéquipiers et pour toute la nation.
Même le benjamin de la sélection nationale, Eliot Djongwe, se dit rassuré de la présence du portier international camerounais.
Nous savons qu'il est un grand gardien, l'un des meilleurs au monde. Il rendra l'équipe plus forte et nous sommes contents de l'avoir.
Le Cameroun et le Burundi, en égalité parfaite avec 4 points chacun, s'affrontent mardi prochain à Garoua. Le vainqueur sera qualifié d'office pour la CAN 2023, prévue en janvier prochain, en Côte d'Ivoire. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Merci à Emmanuel et à Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les participants au premier sommet africain sur le climat ont appelé à réformer le système financier international afin d'alléger le fardeau de la dette qui pèse sur les pays africains et les empêche de développer leur potentiel unique en matière d'énergie renouvelable. Ce sommet historique de Nairobi qui a pris fin hier visait notamment à attirer des financements internationaux pour des projets verts sur le continent africain. Il a entraîné de nombreuses divisions. Pour une analyse, Eric Manirakidza a joint à Maurice la professionnelle du changement et développement durable, Anusha Sichern.
En Afrique, on a des grandes possibilités, du grand potentiel à aller vers l'énergie verte en ce qui concerne l'énergie hydraulique, éolienne ou solaire. En regardant notre continent, on voit que si on se tourne vers l'énergie verte, ça va être un très grand avantage pour nous, pour être sur le plan financier et de développer notre économie. Mais par contre, Sénégal, le pays veut toujours compter sur le fossile. Peut-être que dans le contexte du Sénégal, c'est important pour son pays d'avoir ce fossile et pour pouvoir nourrir sa population et pour pouvoir créer des opportunités en termes de travail pour sa population. Donc, il ne faut surtout pas oublier qu'il y a des pays en Afrique, comme l'Angola ou le Nigeria, qui ont l'accès sur le fossile. Donc, pour eux, ça les a aidés à nourrir le peuple. Et c'est le moyen que le peuple s'en sert pour gagner leur vie. Donc, il y a une divergence, mais il faut vraiment comprendre le contexte. Vu que l'Afrique contribue uniquement à 3% des émissions de gaz à effet de serre, je pense que si Sénégal continue dans cette voie, il n'y aura pas un grand effet sur le plan global en ce qui concerne les gaz à effet de serre provenant de l'Afrique, parce que nous ne sommes pas un continent pollueur. Donc, il faut voir en termes de population, en termes des ressources de la population, et aussi, si on parle de carbone neutralité, si une partie de l'Afrique se sert du fossile, mais de l'autre côté, on peut toujours avoir les énergies renouvelables en Afrique, telles que l'éolienne, hydraulique et solaire, comme dans les pays d'Afrique de l'Est. Donc, on va pouvoir arriver à un niveau de carbone neutralité aussi. Donc, je pense que dans les deux cas, ce sera bénéfique pour l'Afrique.
Une autre divergence concerne la création d'un marché carbone d'un côté et de l'autre, l'économie bleue qui est défendue par les Comores et Djibouti.
Bon, moi je pense que le marché carbone, ça va être un avantage pour l'Afrique parce que ça va nous donner des fonds pour pouvoir investir dans notre économie et aussi pour pouvoir accéder au développement lié à l'adaptation. Mais je pense aussi que l'économie bleue a sa place. L'économie bleue sera peut-être un des enjeux les plus importants pour l'Afrique, surtout pour l'Afrique côtière et pour les petits îles.
Anusha Sichen, professionnelle du changement et du développement durable. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a écrit au président du Conseil de sécurité de l'ONU pour lui demander d'accélérer le retrait de la MONUSCO, la mission onusienne dans le pays avant fin décembre, période où les élections sont censées se tenir. La lettre est envoyée une semaine après une manifestation anti-MONUSCO d'une secte mystico-religieuse, les Vazalendo, qui a fait une cinquantaine de morts à Goma, dans le Nord Kivu. Eddy Isango a joint à Kinshasa l'éditeur du quotidien La Prospérité, Marcel Ngoyi.
La République a ses raisons que la réseau ignore. Je pense que c'est depuis longtemps que même l'ancien président Joseph Kabila et même l'actuel qui est venu, ces deux présidents successifs à la tête du pays, ont exigé le départ de la MONUSCO pour des raisons évidentes, liées notamment à la non-exécution dans les conditions et termes voulus de la mission qui lui a été confiée à cette mission. La paix n'est jamais venue depuis plus d'une vingtaine d'années qu'elle est là. Donc le résultat, c'est que les populations civiles réclament et qu'il y a aujourd'hui de vives tensions dont certaines ont été observées aujourd'hui à Goma et à travers l'est du pays.
Qu'est-ce que vous diriez de ceux qui pensent que cette lettre du ministre des Affaires étrangères au président du Conseil de sécurité est liée aux manifestations qui se sont soldées par une cinquantaine de personnes à Goma il y a une semaine?
La demande du gouvernement congolais sur le retrait de la MONUSCO date de depuis plusieurs années. C'est depuis le régime passé que les autorités congolaises ont demandé que la mission, soit qu'elle soit réduite, soit que les effectifs soient, redimensionnés, ou alors qu'on fasse la réqualification de l'objectif et de la mission de la MONUSCO. Aujourd'hui, s'il y a eu des incidents qui puissent précéder ou accompagner ou accélérer le processus, moi, je préfère que chacun puisse en tirer des leçons. Pour ma part, je pense que c'est tout à fait indiqué que les autorités congolaises soient fondées à demander le départ de la MONUSCO. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a eu des massacres et pas d'autres des troubles. Il y avait eu déjà des troubles bien avant. Souvenez-vous du cas de Beni, de certains contrées dans lesquelles les populations ont déjà manifesté et exigé le départ de la MONUSCO. Donc, il ne faut vraiment pas réduire la démarche du gouvernement à la seule préoccupation de pouvoir se soustraire peut-être des tensions ou de ceci, ou justifier les tensions qui se sont déroulées à Goma dernièrement.
La MONUSCO avait déjà annoncé, comme le gouvernement de la République démocratique du Congo, les retraits par étapes de leurs forces en RDC. Mais pourquoi demander l'accélération de ces retraits maintenant? On sait qu'il y a déjà des bases qui ont été fermées un peu partout, sauf dans l'Est peut-être.
J'ai devant moi ici le verbatim de la réunion de la MONUSCO d'aujourd'hui. La MONUSCO avait consenti l'idée de pouvoir se retirer de manière progressive. Et les dispositions ont été prises et ces retraits devaient se faire de manière échelonnée pour des raisons de substitution. Donc si les forces de la MONUSCO se retirent, il faut les remplacer automatiquement par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc c'est ça qu'il faut accélérer. La lettre ne vient peut-être que pour exercer une pression.
Accélérer les retraits de la MONUSCO jusqu'avant décembre, c'est la période des élections. Pensez-vous que la République démocratique est prête sur le plan sécuritaire et même sur d'autres plans pour s'assumer?
Il est difficile à ce stade que je réponde à la place des autorités. Mais je constate néanmoins que les efforts à fournir pour les FARDC sont des efforts conséquents.
Joint à Kinshasa, Marcel Ngoyi, éditeur du quotidien La Prospérité. La MINUSMA, la mission de maintien de la paix au Mali, a officiellement quitté Ogo-Sagou, situé dans le cercle de Bankas. Après plus de 3 ans de présence, la base temporaire de la mission onusienne a été remise aux forces armées maliennes. Cette action est conforme à la résolution 2690 qui a entériné le retrait de la MINUSMA à la demande des autorités maliennes. De Koro, notre correspondant Tidiani Ouedraogo.
Les dernières troupes sénégalaises stationnées à la base opérationnelle de la MINUSMA à Ogo-Sagou, région de Bandiagara dans le centre du Mali, ont quitté leur base qu'ils ont remise aux autorités maliennes. Cet événement marque une étape importante dans le retrait de la mission onusienne du Mali. Colonel Ali Sidibé, préfet de Bankas.
C'était un jour de fête, de convivialité. Donc la population a adhéré et l'armée malienne a pu, récupérer le camp sous la présence du commandant des zones.
La mission onusienne applique ainsi la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre un terme à la MINUSMA déployée depuis 2013 à la demande des autorités maliennes. Selon Mamadou Zigimé, du collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon, la MINUSMA devrait avoir un mandat plus robuste.
Nous, au niveau du collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon, nous avons même écrit aux Nations Unies au bureau de l'ONU, dire que vraiment nous voulons qu'il revoie les mandats de la MINUSMA pour pouvoir insérer même la combativité. Sinon, l'interposition seulement n'arrange pas. Et voilà, beaucoup combattent la MINUSMA aujourd'hui au Mali parce qu'elle ne combat pas les terroristes.
Dotée d'une composante militaire et une autre civile, la MINUSMA, dont le rôle est de contribuer à la stabilité au Mali, agissait aussi dans les domaines du social. Ici, les avis sont partagés sur le départ de la MINUSMA. Alain Guindo coordonne une ONG locale et l'AMINISMA est le principal partenaire financier.
La structure a travaillé avec l'AMINISMA dans le cadre du développement, surtout de la cohésion sociale entre les couches qui ont des tensions entre elles. Nous avons travaillé aussi à Dantele au profit de l'association des femmes. Il y avait des femmes du village, il y avait des femmes déplacées et Dantele était vraiment archi-com. Nous avons fait un périmètre maraîcher de 2 hectares pour les femmes.
D'autres comme Mamoudou Guindo sont restés sur leur faim.
Par rapport aux infrastructures, vraiment, je ne saurais vous dire qu'on a eu vraiment cette financement par l'AMINISMA et qu'on peut montrer vraiment les fruits, il n'y en a pas dans les sites de Bankas.
Après Ogossagou et Ber, la mission multidimensionnelle des Nations Unies poursuit son retrait programmé du Mali qui doit se terminer d'ici le 31 décembre 2023. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Au cours des 8 années de crise sécuritaire au Burkina Faso, le pays a vu affluer des dizaines de milliers de réfugiés et a enregistré près de 2 millions de déplacés internes. Malgré cette situation préoccupante, le Burkina a ouvert ses portes à plus de 36 000 réfugiés venant principalement du Mali. Notre correspondant Gilles Dasda a rencontré deux de ces réfugiés et personnes déplacées qui sont installées à Ouagadougou il y a quelques années.
Quartier Wemtenga à Ouagadougou. C'est ici que vivent Asmamou Goro, sa sœur et leurs enfants. Dans ce logement de fortune qu'elle loue à 10 000 francs CFA le mois, la trentenaire se démène pour mettre ses trois enfants à l'abri du besoin. Il y a un peu plus de 2 ans, Asmamou Goro a fui son village, Tony, à la frontière avec le nord burkinabé. À l'époque, le village était sous blocus terroriste depuis déjà plus de 3 ans. Et il fallait fuir pour survivre, mais avec tous les risques possibles.
En sortant, on les arrête, soit on les frappe, ou soit, même si c'est nouveau, si c'est au dos, on les fait sortir pour les voir, c'est filles ou garçons. Ah, si c'est garçon, ils ne laissent pas passer.
Un euphémisme pour dire que les enfants de sexe masculin étaient automatiquement tués par les terroristes. Mais Asmamou va prendre la route avec ses 2 garçons et la grossesse qu'elle portait.
Quand tu quittes de notre village, Tony, tu viens au Bani. La nuit que j'ai marché. Et dans la journée aussi, le moment, le midi comme ça, eux, ils rentrent pour se reposer un peu. Donc, en ce temps-là que je profitais. Et puis, sinon, si on te voit aussi, soit toi ou soit tes enfants. Voilà, on te fait beaucoup de mal jusqu'à ce que tu ne pourrais pas vivre encore.
Tony, puis Bani dans le nord du Burkina, ensuite Ban, avant de débarquer à Waigouya, plus d'une centaine de kilomètres à pied et à moto. Enfin, elle et ses enfants arrivent à Ouaga, emmenés gracieusement par une bonne volonté.
Et je suis venue, je ne me suis pas assise, malgré avec la grossesse. Je travaille pour pouvoir nourrir les enfants. Je remercie vraiment les Burkinabés. Oui, je travaille, malgré ça, eux aussi. Ils voient que vraiment la femme a besoin, eux aussi m'aident à manger, à des vêtements.
Nettoyage, lessive, cuisine, coiffure pour la désormais réfugiée, pas question de trier les jobs. Comme elle, le Burkina accueille plus de 36 000 réfugiés sur son territoire, en dépit de la crise que traverse le pays. Des réfugiés constitués majoritairement de Maliens, à l'image de Dramane Maïga, arrivé au Burkina en 2012. Il a dû fuir Gao avec ses 12 enfants. Depuis quelque temps, il travaille dans un comité mis en place par l'ONG Credo, appuyé par le HCR.
Chaque mois,
ça nous permet d'avoir de l'argent chaque mois pour prendre soin des nôtres. Sinon, ça ne va pas. Le Mali et le Burkina vivent le même problème maintenant. On a de l'aide, c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Mais avec certaines ONG, on arrive à avoir de quoi payer un sac de riz pour la famille. On rend grâce à Dieu.
Plus de 80 000 Burkinabés sont réfugiés dans les pays voisins et 2 millions sont des déplacés internes. Et cela, Asmamou et Draman en sont conscients. Leur souhait est que le Burkina continue de leur apporter son appui. Gilles Dasda, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Lionel Ronanira Gahima, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.